Bonjour, je suis Flaubert et vous êtes sur 13e mois. 13e mois, c'est le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines, qu'il soit DRH, HRBP, qu'il travaille dans les relations sociales ou le recrutement, qu'il ait 30 ans d'expérience ou seulement quelques années, ils ont tous des choses à raconter de leur quotidien et de leur vécu. J'échange donc en toute sincérité autour de leurs expériences et des solutions qu'ils ont mises en place. Et je partage aussi avec vous mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'une DRH qui casse les codes. Cette DRH, c'est Nadia Godban, la directrice des ressources humaines de Don't Call Me Jennifer. Vous verrez que Nadia n'était pas à la base destinée à devenir DRH, et pourtant, aujourd'hui, elle y est et elle en fait des choses en RH. Avec Nadia, nous parlons de son passage de l'opérationnel au RH et on s'arrête sur le zéro étiquette. Nadia nous révèle les secrets de la session de recrutement qu'ils viennent de faire, une session sans CV et dans laquelle ils ont rencontré toutes les personnes qui ont candidaté. C'est surprenant et ça confirme bien que oui, ça existe vraiment dans la vraie vie. On s'arrête avec Nadia sur ce qu'elle a mis en place en matière d'assessment center et elle nous explique tout dans le détail. C'est une vraie recette pour celles et ceux qui veulent en mettre en place. D'ailleurs, j'adore le jeu de la montgolfière dont elle nous parle. On évoque aussi le sentiment d'appartenance, le binôme RH et direction commerciale et les magasins formateurs. Allez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon échange avec Nadia Godban, DRH de Don't Call Me Jennifer. Bonjour Nadia.
Bonjour Flaubert.
Bienvenue sur 13e mois. Je suis vraiment ravi de t'accueillir dans mon podcast 13e mois, le podcast RH. Et j'en profite également pour saluer les membres du groupe de l'ANDRH Paris, 8e étoile.
Tout à fait.
Dont toi et moi, nous faisons partie et c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc bonjour.
Effectivement, bonjour.
Bonjour à vous. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vais te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs. Nadia, on peut déjà dire deux choses sur ton parcours. C'est qu'il y a un dénominateur commun et un fil conducteur. Le dénominateur commun, c'est la mode, la fringue, la sape, la fashion, bref. Toutes tes expériences se sont faites autour de la vente de vêtements. Et le fil conducteur, ce sont les différences de culture, les pays et voyages, car tu as œuvré sur plusieurs continents. On va y venir juste après. Allez, regardons ça de plus près. Tu obtiens un DEUG de droit et ton premier métier, c'est d'être directrice de magasin chez Célio. Puis tu changes de marque pour Armand Thierry. C'est ensuite, quand tu rejoins la marque Massimo Dutti, que ta carrière prend une nouvelle direction, celle des ressources humaines, puisque, après quelques mois comme directrice de magasin, tu deviens responsable RH. Tu occupes ce poste 2 ans et demi, et tu deviens ensuite directrice des ressources humaines groupe Retail and Property chez Indigo Company en Tunisie. Le groupe représente les marques de la galaxie Inditex, dont Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, tout ça en Tunisie donc, et la marque gère également des enseignes comme Célio, Jennifer et Undiz. En 2019, tu deviens DRH du groupe Ganti, qui est le leader sur le marché de la mode, mais là, c'est à La Réunion et aux Antilles. Et puis, en octobre 2020, tu deviens directrice des ressources humaines de la marque Don't Call Me Jennifer, marque de vêtements pour adolescentes dont la baseline est d'être zéro étiquette. C'est bon, c'est bien ça, c'est ta vie, ton œuvre.
Oui, c'est bien ça. J'ajouterais que je suis fière de venir du terrain et de pouvoir avoir fait ce parcours. Et effectivement, je suis une passionnée de la mode et du retail.
Alors, puisque tu parles de ça, venir du terrain, moi, c'est ce que j'aime et ce que je vois beaucoup au travers de ce podcast ou des acteurs et actrices RH que je rencontre. Les parcours ne sont pas linéaires. De plus en plus, je rencontre des personnes qui n'ont pas commencé dans les RH et qui, aujourd'hui, ont des postes à haute responsabilité, comme toi, DRH. Comment tu vois ça et comment, toi, tu as vécu, justement, ce passage de directrice opérationnelle de magasin vers le monde et le fait d'être responsable RH?
Ben, écoute, on a détecté en moi ce potentiel et cette fibre humaine. Donc, je remercie les personnes qui ont cru en moi à cette époque. C'était chez Massimo Dutti. Le passage, au départ, était interpellant parce qu'on passe de l'opérationnel du commercial à un poste où on est au contact des opérationnels, mais sur la partie écoute, sur la partie accompagnement. Donc, ça m'a permis de me poser et de pouvoir partager mon savoir avec mes collègues.
Donc, tu as vraiment pris des compétences acquises, apprises sur le terrain, dans ta fonction de directrice de magasin, que tu as transposées sur ta première fonction de responsable RH ?
Tout à fait.
D'accord, donc il y a vraiment une suite...
Il y a une suite logique.
Il y a une suite logique, oui. Ok, très bien. Alors, je voulais revenir sur le zéro étiquette de Don't Call Me Jennifer. Mm-hmm. Je suis allé un peu fouiller, évidemment, regarder pour préparer ce podcast. Et sur le site internet, le zéro étiquette, c'est chez Don't Call Me Jennifer, on est zéro étiquette, on recherche des personnes qui s'assument, qui aiment casser les codes, qui aiment le challenge et qui sont passionnées par la mode et le retail. On voit au-delà des clichés, tu es libre d'exprimer qui tu es. Je trouve ça assez génial de faire le lien entre ce zéro étiquette et les RH. C'est quoi, comment tu retranscris ça, le zéro étiquette, dans ton métier de DRH et dans les ressources humaines?
Alors nous, le zéro étiquette, c'est zéro limite, zéro jugement. Dernièrement, on a fait un recrutement zéro étiquette. On a convié, en fait, on a passé une annonce pour notre pôle achat sur les métiers de chef de produit, assistant achat et acheteur. Une annonce donc générique sur le site. Et on a convié toutes les personnes qui avaient postulé. On les a toutes conviées, on n'a pas regardé leur CV. On les a conviées à une journée, donc recrutement zéro étiquette, où on leur a présenté l'entreprise, où on les a mis en situation... On a pu observer leurs compétences comportementales et on les a reçus en entretien individuel sur des questions qui n'ont rien à voir avec leur expérience ni leur CV. Donc voilà, on leur a posé des questions sur ce qu'ils aimaient faire, sur ce qui était important pour eux dans leur vie, sur leurs valeurs. On n'a pas du tout regardé en fait le CV. Ils avaient également un petit travail à rendre sur des questions qui sont liées au domaine de la mode et des achats. Ça a été une session qui a été très enrichissante et pour les candidats et également pour nous, en fait. Parce qu'on n'a pas du tout regardé le CV et les candidats ont été surpris quoi, en disant « Vous ne voulez pas que je vous parle de mon expérience ? Non, je veux que tu me parles de toi. Ce qui est important, c'est toi et c'est ta personnalité. »
Attends. Alors ouais. Là, tu es en train de nous dire que vous avez donc... Vous passez une annonce, vous recevez des candidatures, vous mettez complètement de côté, en gros, la candidature que vous recevez à travers le CV, etc. Ouais. Vous dites, on a reçu la candidature de Madame Y. Ouais. Très bien. Elle est automatiquement convoquée à une session de recrutement.
C'est ça.
Session de recrutement que vous faites à travers des entretiens, mais avec des questions... qui sont pas vraiment ce qu'on a l'habitude d'entendre comme question, parce que c'est pas quel est votre parcours, etc., mais c'est plus qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, et on veut apprendre à vous connaître.
C'est ça.
Ensuite, vous leur faites faire un petit exercice, et puis, au final, vous recrutez sur ce moment que vous avez passé avec les personnes.
Tout à fait, sur leur personnalité, qui elles sont, leur motivation, et on est vraiment là dans le zéro jugement, en fait.
T'as quelques chiffres, à peu près, ou grosso modo, avez vu beaucoup de monde ?
Alors, on a vu plus de 80 personnes.
D'accord.
Sur cette journée.
Ok. Donc, c'est énorme de voir 80 personnes sur une journée.
Et il y en a la moitié qui ont été retenues.
Donc, en faisant ça, vous recrutez 40 personnes.
C'est ça.
Waouh.
Ouais.
C'est juste... Et comment vous est venu cette idée de faire ça?
Eh bien, en fait, le zéro étiquette, c'est vraiment zéro jugement. Et nous, c'est viens avec ta personnalité et viens comme tu es. Mmh. Donc voilà. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse différemment. On a toujours fait, Don't Call Me Jennifer, depuis 3 ans, on fait différemment, on casse les codes. Ça, c'est casser les codes.
Ah, je te le confirme. Ouais. C'est carrément exploser les codes.
Voilà. Et donc, on s'est dit, allons-y, quoi. Donc, assumons-nous. aussi, quand on dit zéro étiquette en RH, bah ça, c'est, ça démontre qu'on est zéro étiquette. Et ça peut être, c'est vrai, surprenant. Il y a des candidats qui ont été surpris, agréablement pour la majorité. Et ils n'avaient pas l'habitude. Et il y en a certains qui sont venus avec des CV. Je leur dis non, mais le CV, je ne le regarderai pas. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Et puis nous, on tutoie de toute façon nos candidats.
Et toi, tu étais présente là.
Ah oui,
tu as
oui.
fait des sessions.
Ah oui, j'ai fait des sessions. Oui, oui. Ah, ouais, tout
et
à
c'était
fait.
Pour quel type de poste?
Donc il y avait assistant achat, chef de produit et acheteur. En fait.
Ah oui, en plus, c'est pas, on n'est pas sur un poste... oui, on est sur des postes quand même à enjeu, des postes...
Ah, tout à fait.
D'accord, donc ouais. L'assistant achat, il se retrouve en entretien avec la DRH. Il rentre chez lui le soir et il dit, ouais. Ah ben moi, j'ai eu un entretien avec la oui. DRH du groupe.
Oui, avec la directrice amont du groupe, avec le directeur sourcing du groupe. On a présenté l'entreprise, puis on les a mis en situation également où on a pu observer aussi leurs compétences comportementales. Parce que ce qui est important pour nous, c'est le comportement, tu vois, c'est les soft skills. Mmh. Au-delà, tu vois, de qui, c'est vraiment qui tu es.
Voilà. Génial.
Voilà, donc un exemple de ce qu'on a pu faire.
Quel exemple. Et là, ouais. Vraiment, vous poussez la baseline jusqu'au bout et vous la mettez en pratique. Et c'est top. Et c'était quand, ça?
C'était il y a une quinzaine de jours.
Il y a une quinzaine de jours, donc voilà. 40 personnes recrutées comme ça, en étant... moi, j'ai toujours pas un problème, mais souvent... les entreprises mettent en place des valeurs, elles prônent des valeurs, mais elles ne sont pas toujours vécues et incarnées en entreprise. Là, vous avez une baseline, vous allez jusqu'au bout du truc. Top, bah, écoute, bravo, je trouve ça génial et je suis très content de pouvoir le partager sur ce podcast et de voir qu'en effet, on peut casser les codes en matière de recrutement et mettre en place des choses et... génial. Avant qu'on continue, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur justement Don't Call Me Jennifer en termes de people, de points de vente, etc.
Oui, bien sûr. Donc nous sommes 1250 collaborateurs. On a 265 magasins en France et une centaine à l'international.
Ok, génial. L'activité, là, Covid, sort du truc, enfin, on ne sait pas, on ne sait pas encore vraiment si on ne va pas rentrer dans une, je ne sais plus si c'est la quatrième ou la cinquième vague, etc.
Bon. Écoute, c'est vrai que les fermetures ont impacté, bien évidemment, le business du retail en général et nous ont impacté. Par contre, à chaque réouverture, ça a été vraiment pour nous très explosif. Hein. Donc, nous, la cible, c'est les adolescentes. Les adolescentes, elles grandissent, hein. Donc elles ont besoin de s'équiper. À chaque réouverture, on a fait de très bons chiffres. Et là, les chiffres sont au rendez-vous.
D'accord, ok, très bien. Pour manager ces 270 magasins, à peu près, il vous faut évidemment des femmes et des hommes dans ces boutiques. C'est quoi le ratio entre ce que vous faites en termes de promotion interne et de recrutement externe?
Pour les magasins, on est à 90% de promotion en interne.
90% de promotion interne.
Oui, en magasin, okay. Oui.
Donc c'est une vraie... école de formation et vous faites évoluer les gens jusqu'à ce qu'ils prennent la responsabilité d'une boutique, voire plus, parce que j'imagine qu'au-dessus, il doit y avoir peut-être des superviseurs ou des choses comme ça.
Oui, il y a des directeurs régionaux, voilà, tout à fait. Ouais.
Donc, 90% de promotion interne. Déjà, comment tu expliques votre choix de dire, nous, on axe surtout sur la promotion interne?
Déjà, pour nous, tu viens sans diplôme, sans expérience. Mm-hmm. D'ailleurs, quand on regarde nos annonces pour le réseau, c'est sans expérience. Viens comme tu es, donc tu as la possibilité, en fait, si tu es motivé, si tu aimes Don't Call Me Jennifer, de pouvoir évoluer. Il y a vraiment un réel attachement à cette marque, à cette enseigne. Et pour nous, c'est une chance que d'avoir des gens qui aiment la marque et qui connaissent la marque et qu'on peut accompagner en évolution en interne.
Ça veut dire que vous avez vraiment fait le choix de dire, ok, tu peux rentrer chez nous, même si tu n'as jamais été dans la vente, dans le retail, tu ne connais pas la mode, les vêtements, etc. On attend juste une chose de toi, c'est ton envie de nous rejoindre, et que tu nous montres cette envie, Et puis, tu vas commencer sur un poste de vendeuse, vendeur, et puis potentiellement pouvoir gravir les échelons.
Tout à fait.
D'accord.
C'est ça. En fait, notre philosophie, c'est ça.
OK.
Et ça rejoint le zéro étiquette, si tu veux, et le zéro jugement.
Totalement.
Et voilà. Viens comme tu es. Et si tu es motivé, si tu as envie, on sera là pour t'accompagner. Et on voit qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une réussite, quoi.
Et tu as des postes de management intermédiaire
Des postes d'adjoint,
okay.
Effectivement, et des postes donc de responsable de magasin, et ensuite bah, on a des postes également de responsable de magasin formateur, de directeurs régionaux, de visuel merch, d'area visuel merch, donc voilà.
Donc il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire.
Ok,
ah ouais, il y a de quoi faire.
Ok, parfait. Et donc, comment vous gérez les évolutions en interne? Quand on a préparé ce podcast, tu m'as parlé des assessments. Et je trouve que c'est un sujet super intéressant. Bah, pouvoir expliquer ce qu'est un assessment, comment vous gérez ça, parce que bah, on va vraiment dans le sens de cette promotion interne. Il faut valider certaines compétences ou permettre d'acquérir ces compétences. Quel est le process? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Alors, les talents, puisqu'on les appelle les talents, et ça s'appelle DCM Talents, cette journée chez Don't Call Me Jennifer, sont identifiés, en fait, en magasin, par leurs responsables de magasin, par leurs directeurs régionaux, comme une personne qui est un futur talent et qui a le potentiel de pouvoir passer à un autre poste. Ils sont identifiés. Une fois qu'ils sont identifiés, on nous informe, département RH, que ces personnes-là ont été identifiées en tant que talent et qu'on souhaite qu'ils passent cette journée d'assessment. Cette journée d'assessment, c'est quoi? C'est un processus, c'est une journée durant laquelle les talents vont être observés par l'équipe RH et par la direction commerciale. Ils vont être observés par des personnes qui ne les connaissent pas, ces talents. Ce ne sont pas leurs managers directs. D'accord ? Ils vont être observés sur des soft skills, sur des compétences comportementales. On va aller regarder leur capacité à communiquer, leur capacité à s'adapter, leur capacité à prendre du leadership, à interagir avec les autres. Ils ne connaissent pas les autres. Il y a des gens qui viennent de Marseille, d'autres de Paris, d'autres de Bretagne. Et c'est de les sortir de leur zone de confort, en fait, au travers d'activités ludiques.
Donc, vous leur faites faire des exercices, des jeux?
C'est des jeux
okay.
qui n'ont rien à voir avec le magasin. C'est ce que je leur explique. Parce que, bon, j'anime les sessions. Je leur explique qu'on n'est pas là pour parler du merchandising, de la caisse... parce que ça, on sait qu'ils savent faire. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est que, bon, ils savent quand même déjà faire pas mal de choses en magasin. Nous, ce qu'on veut, c'est aller observer, en fait, leurs soft skills et leur comportement. Et leur capacité à pouvoir être demain manager chez nous.
Donc, on est vraiment dans le savoir-être. Voilà, donc, si je résume, les personnes sont identifiées en magasin. Vous êtes informés de la personne, vous avez défini une date, etc. Mmh. Tout le monde se retrouve. Et donc, vous les mettez en situation de jeu.
C'est ça.
Pour voir comment ils se comportent en communauté, comment ils communiquent, comment ils sont, etc. Ces jeux, vous les avez donc créés avant, c'est des choses que vous avez, vous, travaillé en interne, vous avez pris les services d'une société externe qui vous accompagne là-dedans, vous vous êtes dit non, nous on fait des choses...
C'est des choses qu'on travaille en interne.
D'accord.
Bon, ça c'est des choses que je pratique déjà depuis des années,
okay.
dans mon expérience de DRH, mm-hmm. et que je fais évoluer au fil de l'eau, donc avec mes équipes RH et avec les opérationnels.
D'accord. Tu peux nous donner comme ça un exemple un peu concret de mise en situation que tu fais faire?
Alors, quel jeu? On va peut-être parler du jeu de la montgolfière, qui est toujours un petit peu surprenant, ce jeu. Donc, en fait, les participants, j'explique aux participants qu'ils sont les derniers survivants sur Terre et ils doivent tirer chacun un métier. En fait, donc ils ont un métier Et en étant le métier, c'est charpentier, architecte, médecin, voilà, différents métiers, donc qui tirent un métier. Et ils doivent, en fait, argumenter sur ce métier-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une montgolfière et que cette montgolfière a un trou. Et comme cette montgolfière a un trou, il va falloir qu'on choisisse de sortir, de balancer quelqu'un de la montgolfière. Donc, puisque la montgolfière va vers une île déserte, en fait. Et pour pouvoir arriver sur cette île déserte, il y a une personne de trop.
Okay.
Et ils vont devoir argumenter entre eux pour savoir qui ils doivent balancer de la montgolfière. Et donc là, on va observer donc la capacité à négocier, à influencer,
génial,
à s'adapter, la prise d'initiative, pas mal de choses qui se passent pendant ce moment qui peut durer 10 à 15 minutes en fonction des interactions. Donc voilà, le type de jeu, enfin, l'exercice de la montgolfière. Quoi.
Et donc, je répète ce que tu as dit tout à l'heure, les personnes qui sont là autour ne les connaissent pas. Donc voilà, il y a vraiment entre guillemets, ce jugement, même si c'est loin d'être un tribunal, bien au contraire, mais c'est quel avis j'ai, qu'est-ce que me renvoie la personne dans cette situation. Et j'imagine bien, en effet, que quand on se met en situation et de se dire, bon, il y en a un qui doit descendre, enfin, qu'on doit balancer de la montgolfière, ok, c'est qui, comment on négocie, comment on justifie, etc.
Ouais.
Comment chacun vit le truc
Tout à
son
fait.
Niveau.
Effectivement, donc on voit quand même pas mal de choses, quoi. Et puis bon, c'est un exercice ludique où on se marre et quand on anime.
Oui.
Voilà, enfin hein, aussi. Hein, donc.
Il y a pas mort d'homme, comme on dit.
Il y a pas mort d'homme, mais ça révèle quand même pas mal de choses quand même.
D'accord. Et ça, donc ça se multiplie sur la journée. Il y a des entretiens individuels qui sont faits.
Oui, donc on fait 3 activités le matin. On déjeune et ensuite il y a des entretiens individuels de 10 minutes.
D'accord.
Et pareil, là, on ne va pas parler, on ne parle pas du tout de leur expérience en magasin ou de ce qu'ils font en magasin, mais de comment ils ont vécu la journée, de comment eux, ils se projettent. On parle d'eux, en fait, et on les laisse parler.
C'est-à-dire que, en gros, si je dis que vous estimez que la partie technique et les compétences techniques, elles sont validées par le N+1, le patron, la patronne du magasin, vous, c'est ça ? Vous
oui,
vous
c'est
dites,
ça.
Ok, lui, il a validé les c'est compétences ça. Techniques, nous, ce qu'on veut, c'est du savoir-être.
C'était tout à fait ça.
Ok, d'accord.
Donc, c'est vraiment le savoir-être qui est important pour
nous. Et en plus, vous responsabilisez ces directrices ou directeurs de magasin, puisque vous leur dites, bon, c'est à vous d'évaluer les compétences techniques.
Tout à fait.
Et si on dit, est-ce que tu es en phase avec ça, que, on le dit souvent ça, mais j'aime bien justement avoir un regard et un retour d'une DRH sur le sujet, les compétences techniques, on sait les faire acquérir, les compétences comportementales, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça, vous êtes parti aussi de ce truc-là ?
Oui, on est parti de ça, effectivement.
D'accord.
Ouais, c'est exactement ça.
Ok, et donc, fin de journée, petit conciliabule entre les observatrices et observateurs ?
Tout à fait. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a différents observateurs. Et il y a un groupe de 5-6 personnes qui débriefent sur la journée, les collaborateurs qui ont été vus. Et c'est une décision collégiale. Ce n'est pas une décision d'une seule personne.
Il n'y a pas une voix qui est plus importante que l'autre ?
Non.
D'accord.
Aucune.
Ok, donc décision collégiale.
Mm-hmm.
Ok.
La personne est prête.
La personne est prête.
Ou elle n'est pas prête.
Ok, voilà. Alors allons sur les deux. Elle est prête, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, elle est prête, on écrit tous les points positifs qui ont pu être observés sur les compétences comportementales, et on va aller lui noter également ses axes d'amélioration, avec 1 ou 2 plans d'action.
Ok.
Que ce soit pour la personne qui soit prête ou pas prête. Donc, elle a en fait un résumé, de ce qui a pu être observé durant cette journée, ce qu'on a pu voir avant tout de positif, et ce qu'on lui suggère d'améliorer avec 1 ou 2 plans d'action.
Ok. À l'inverse, vous vous dites, parce qu'évidemment ça arrive, et c'est normal, et heureusement, certaines ne sont pas prêtes.
Tout à fait.
Et j'aime bien d'ailleurs cette notion de pas prête. Déjà, si on focus là-dessus, c'est pas c'est pas pour toi.
Ouais.
Tu n'es pas prête.
Voilà ce que je t'invite à travailler. Voilà, la confiance en soi, la communication. Enfin, vraiment, voilà, on les invite et on est très bienveillant par rapport à ça. D'ailleurs, les personnes sont débriefées, en fait, dans les 10 à 15 jours, donc à la suite de cet assessment.
Donc, elles n'ont pas le retour tout de suite ?
Tout de suite, non.
OK, donc là, retour à la maison.
Retour à la maison en magasin.
OK.
Et ensuite, c'est la responsable RH ou la responsable formation et carrière avec le directeur régional qui débrief le collaborateur.
D'accord, donc là, il y a vraiment un point qui est fait individuellement avec la hiérarchie.
Oui.
Sur, OK, suite à ton assessment, voilà le retour, bravo, tu as été validée, tu étais prête.
Ouais, c'est ça.
Ou alors, avec le petit plan d'action qui va bien.
C'est ça.
Ou alors, non, tu n'es pas prête.
Ouais.
Et donc, voilà ce qu'il va falloir travailler.
Tout à fait.
Pour que tu puisses être prête.
C'est
donc,
ça.
Seconde chance.
Mmh. Alors oui, alors après, en fait, les personnes ne repassent pas, les personnes qui n'ont pas été prêtes, mais qui ont travaillé, en fait, et qui ont été accompagnées, peuvent être prêtes dans 3 mois ou dans 6 mois. Et à ce moment-là, elles ne repassent pas un assessment. On ne leur fait pas repasser.
Oui, parce que de toute façon, vous avez déjà identifié les choses.
C'est ça.
OK, c'est juste des éléments à travailler. Pour ensuite pouvoir prendre son poste.
Oui, avec un plan d'accompagnement personnalisé, en fait.
D'accord. Et un suivi
Et un suivi, en fait, par le responsable de magasin, l'EDR, et par la responsable RH Retail.
D'accord. Donc vraiment, il y a tout un process et tout est carré. Ça, vous l'avez travailler, retravailler, c'est quelque chose qui est aujourd'hui abouti, qui est encore pour toi un peu en jachère, il y a encore du travail à faire dessus.
Je pense qu'il y a encore du travail à faire dessus, parce qu'on ne s'arrête jamais, il ne faut pas dire que voilà, le process est finalisé. Donc nous, on se laisse l'opportunité de faire évoluer les choses. Quoi.
D'accord, ok. Et justement, là, j'imagine que les auditrices ou auditeurs écoutent, se disent « Ah, justement, moi, j'aurais bien aimé mettre en place quelque chose comme ça, ou je souhaite le mettre en place. » C'est quoi les 1 ou 2 conseils là, que tu donnerais à ces personnes-là ?
Conseil, c'est déjà de partager avec l'équipe RH, de partager avec les équipes, les opérationnels, en fait, de leur demander leur avis. Parce que c'est très important de...
Donc, associer les opérations.
Ah, il faut associer. Si on n'associe pas, on ne peut pas y arriver. Donc, c'est associer. Effectivement, nous, on a associé la direction commerciale. On est venu expliquer, voilà, notre intention, les objectifs. On a partagé avec eux et on a donné du sens. On a eu besoin de l'adhésion du département commercial. On ne peut pas faire seul département RH des assessments sans associer la direction commerciale. Et notre force chez Don't Call Me Jennifer, c'est que la direction RH et la direction commerciale travaillent pour le même objectif et le même but et ensemble. Donc le conseil, c'est vraiment d'associer les opérationnels.
Et tu les associes en amont et y compris sur la journée ?
Oui.
Ok, ils sont présents
Ils sont présents, ah oui, oh, okay. Ouais. En amont, y compris sur la journée, c'est ce qui fait la force.
Et je vois tout à fait ce que tu veux dire quand tu dis que la direction RH et la direction commerciale vont dans le même sens. C'est super important. Moi, j'ai connu des directeurs des opérations quand j'étais DRH avec lesquels je me suis super entendu et on a vraiment travaillé et on voit vraiment ce qu'on peut développer, déployer. Les équipes, d'ailleurs, en dessous, travaillent aussi de concert. Et on peut développer, en effet, des sujets comme ça. Et le sens de la fonction RH, c'est évidemment, entre guillemets, de servir les opérations et de contribuer au business. Et là, à travers ces assessments, vous contribuez au business, à la réussite.
Ok.
Est-ce que tu as pu mesurer le retour des collaboratrices, collaborateurs qui passent ces assessments ou ce qui se passe après les assessments, comment ils vivent leur poste, est-ce que ça leur donne une certaine confiance, comment ça se passe ?
Alors, effectivement, pour ceux qui sont prêts et prêtes, ça leur donne réellement une belle confiance en eux, ça assoit leur confiance. ça soit la confiance que nous, on peut également leur donner. Et c'est une reconnaissance pour eux. Hein. On les fait venir au siège, ils passent la journée avec nous.
C'est un moment super important pour eux.
Ah, c'est un moment super important, ils sont super ravis. Et à un moment donné, j'ai dû faire certaines sessions parce qu'on changeait de siège, on déménageait. Donc on a fait ça dans un hôtel. Ils ont apprécié le fait qu'on les convie, qu'on prenne soin d'eux, que ce soit leur journée à eux. Et parce que c'est super important pour nous, donc le retour est positif. Et plusieurs m'ont dit, Nadia, que je sois prêt ou pas prêt, merci en tout cas pour cette journée. J'ai pu rencontrer d'autres collègues que je ne connaissais pas. J'ai pu voir le siège, j'ai pu rencontrer telle personne que je ne connaissais pas. Et ils ont pu également échanger, parce qu'on leur laisse toujours un moment où ils peuvent nous poser des questions. Et donc, les questions qu'ils veulent.
Génial.
Donc, bon retour. Après, pour les personnes qui ne sont pas prêtes, le retour est également positif. Elles sont patientes. Il y en a certaines qui sont un peu déçues, c'est sûr. Mais nous, on s'engage à les accompagner. Donc, voilà. C'est ce qui peut les rassurer aussi.
Tu as évoqué un point que je trouve très, très important et très, très intéressant et qui me rappelle plein de choses. Le fait de permettre à une collaboratrice ou un collaborateur qui travaille en région ou même proche du siège, mais de venir passer une journée au siège. Je me rappelle quand j'étais chez McDonald's, on appelait ça la grande maison. Et vraiment, les personnes étaient très, très, très heureuse de venir au siège de l'entreprise. Et comme tu l'as très bien dit, ça leur permet aussi de rencontrer des personnes qu'elles ont parfois au téléphone ou dont elles ont entendu parler, mais de pouvoir échanger avec. Je trouve que c'est un élément très important pour le sentiment d'appartenance.
Tout à fait.
Et cette fierté de se dire waouh, et moi, ça y est, je suis allé au siège, je connais. Et d'arriver à joindre l'utile à l'agréable, il faut vraiment penser à ce genre de choses.
Tout à fait.
Et je trouve qu'en plus, arriver à mettre derrière une session de questions-réponses ouverte, bon, là, vous faites quelque chose de top. Ouais.
Tout à fait. Et à cette session de questions-réponses ouvertes, on invite notre directeur des opérations, on invite de notre directrice retail pour pouvoir échanger et répondre aux questions. Et ils sont ravis de pouvoir parler à une Leïla Yazid, à Emmanuel Locati. Donc voilà.
Et après, le retour en boutique de moi, j'ai parlé avec Leïla, avec Emmanuel, j'ai posé telle question. Voilà le retour que j'ai eu.
Tout à fait.
Je trouve que sur le sentiment d'appartenance qui est tellement important, ce sentiment d'appartenance qui donne aussi le sens
à
ce qu'on fait au quotidien, au job, etc. C'est vraiment, vraiment important et vraiment top. Ok, on a parlé de plein de choses positives. Quelles sont comme ça, parce qu'en fait, on est en train de parler de gestion de carrière, d'une vraie politique. Alors, on a fait un focus sur l'assessment, mais c'est une partie de ce que vous faites en termes de gestion de carrière. Est-ce que tu as rencontré des freins dans la mise en place de la politique de gestion des carrières?
Alors, je ne parlerai pas forcément de freins, mais beaucoup d'interrogations. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est nouveau. On ne connaît pas, l'inconnu fait peur. Je vais venir au siège, rencontrer des personnes que je ne connais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, beaucoup d'interrogations. La suite, ce sera quoi? Et nous sommes, on est intervenu avec mon équipe à plusieurs reprises lors de webinaires réseau pour expliquer. On s'est déplacé également en magasin pour expliquer aux collaborateurs. Le département commercial a joué le jeu avec nous également pour donner du sens et répondre aux interrogations. Beaucoup de questions et d'interrogations au départ parce que je ne connais pas. Comment je vais être mangée? À quelle sauce je vais être mangée?
Ah oui, puis je vais être observée.
Je vais être observée, donc pas de freins, je dirais, mais beaucoup d'interrogations auxquelles on a répondu. Puis après, on a commencé les premières sessions, et vous savez comment c'est. Une fois que, ça fait effet boule de neige, c'est parti, on sait comment ça se passe. Hein. C'était la première, toujours, qui était...
Normal.
Il y a eu pas mal d'interrogations, et maintenant, les équipes savent comment ça se passe.
Donc, j'ai entendu quand même que vous avez mis en place des webinars pour partager, expliquer...
Tout à fait.
Dédramatiser.
Dédramatiser. Okay. Et puis, Assessment Center, on est une entreprise française, donc on a choisi ensemble le nom de DCM Talent.
Ok.
Voilà. Donc on s'est dit, bon, assessment, bon, allez, c'est anglais, qu'est-ce qu'on pourrait. Et puis on a fait un vote lors d'un webinaire et on a décidé que ça s'appellerait la journée des DCM Talent.
Ok, génial.
Voilà.
Et pour contribuer à toute cette politique de gestion des carrières au global, ça mobilise quoi et qui au niveau de ton équipe et de ta direction des ressources humaines?
Alors, au niveau de la direction ressources humaines, donc moi, ça me mobilise sur la journée, parce que c'est une journée qui est hyper importante pour mon département et pour l'entreprise. Et pour moi, il est inconcevable que je n'y sois pas. Ce n'est pas possible. La responsable formation et carrière.
Logique.
Voilà. Et la responsable RH retail du réseau, en fait.
D'accord.
Voilà. Donc, ça nous mobilise. Et ça mobilise donc le département commercial. Les observateurs peuvent être des DR. Donc des directeurs régionaux, des DV, des responsables de magasins formateurs également,
okay.
qui viennent pour observer. Donc voilà, ça mobilise quelques personnes, mais pour nous c'est tellement important que voilà, la mobilisation, elle est là, ça mobilise une directrice retail, ça peut mobiliser un directeur des opérations comme Emmanuel, donc qui vient pour répondre voilà, aux questions, déjeuner également avec les collaborateurs ou prendre le petit-déj le matin, donc voilà. Et au niveau de mon département, du coup, 3 personnes.
Ok, si je dis que c'est semer des graines pour récolter le business de demain, c'est ça?
C'est exactement ça, Flaubert.
Ok, ok. Tu as employé un mot là qui me rappelle aussi pas mal de choses que j'ai pu connaître, les magasins formateurs. Ça veut dire que vous avez des magasins, dans certaines marques, on appelle ça des magasins écoles,
oui,
etc.
Oui, oui.
Mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont formées pour apprendre, accompagner, intégrer, etc.
Tout à fait. On en a 16 aujourd'hui sur le réseau. Voilà, s'ils m'écoutent, c'est une équipe et je les ai reçus hier parce qu'on avait la convention réseau au siège. C'est une équipe de ouf. C'est une équipe qui est impliquée, motivée. On a passé là une semaine au mois d'octobre ensemble où on les a formés en interne pour qu'eux puissent également former les autres. Voilà, c'est une équipe de RMF extraordinaire et voilà, je les remercie.
Donc ce sont des gens qui sont formés à former.
C'est ça.
J'en profite hein, parce que c'est toujours bien de rappeler que former, c'est pas inné et que... On peut être un bon technicien, mais il faut savoir passer les messages, faire
tout
de la pédagogie, ça ne s'apprend pas comme ça,
ça
etc.
Ça ne s'apprend pas comme ça, tout
okay.
à fait.
Donc tu nous confirmes bien que pour former des personnes, ben, vous avez formé d'autres personnes en interne qui savent passer les bons messages, faire les bons exercices, etc.
Tout à fait.
Et ça, ça fait partie aussi de votre politique de gestion des carrières, développement, etc.
Exactement.
Sans compter la satisfaction de la personne qui est formatrice, qui a aussi un sens à ce qu'elle fait, puisqu'elle transmet un savoir, elle transmet les valeurs de l'entreprise, etc.
Tout à fait, et puis il crée des outils, et ça c'est extraordinaire, de manière ludique, ils sont pétillants, plein de ressources.
Ok, génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On arrive aux 3 petites questions finales que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Déjà, quel serait le conseil que tu donnerais à la jeune Nadia de 25 ans qui se dirait « Allez, je me lance dans les RH, là, ça y est, c'est décidé ». C'est quoi le conseil ou les conseils que tu pourrais lui donner ?
Se faire confiance.
Mm-hmm.
Ne pas hésiter à poser des questions, à dire je ne sais pas.
Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de naturel de dire qu'on ne sait pas. Et quand on se lance dans les RH, oui, il faut avoir une vraie confiance et savoir poser des questions. D'ailleurs, après, on en fait souvent. Ça fait partie du métier, hein,
ouais.
Savoir poser des questions. Et quand on ne sait pas, dire qu'on ne sait pas.
C'est ça.
Ok. Tu pars sur une île déserte. Tu peux emmener un livre. C'est quoi ce livre?
Je veux dire les 4 accords Toltec. Les fameux. Oui, voilà. J'en ai plein d'autres, mais celui-là, j'aime bien.
Et on pourrait conseiller ce livre aussi pour la première question, et donc la première réponse, pour gagner en confiance, etc. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses dedans. Donc, ok, très bien. Et puis, est-ce que tu as une personne à me recommander pour un prochain podcast RH ?
Ben moi, je te recommanderais Céline Levita.
Ok.
C'est une coach avec laquelle on travaille chez Don't Call Me Jennifer.
Ok.
Et qui a écrit tout récemment un bouquin sur la méditation. Voilà, et qui travaille avec nous. On va mettre en place donc prochainement également, nous, des séances de méditation chez Don't Call Me Jennifer.
Très bien, et ben voilà, comme ça on pourra continuer à parler des séances de méditation dans un prochain épisode. Mais en tout cas, Nadia, vraiment merci beaucoup parce que tu as été pleinement dans ce que je souhaite pour ce podcast, c'est du terrain, des conseils pratiques. Voilà, moi j'ai appris plein de choses et ben merci à toi d'avoir partagé tous ces éléments en totale transparence. Je sais que ça peut servir à d'autres personnes dans la communauté RH. Donc voilà, merci beaucoup, Nadia.
Merci à toi, Flaubert, de m'avoir reçu.
Avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.